Onde Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Onde Femmes. Onde Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bienvenue dans Remue Ménage, Onde Femmes, Radio Zone 93.8. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de médecine traditionnelle africaine, comme je vous l'ai annoncé la semaine passée. Et nous avons en direct dans notre studio trois invités que j'accueille avec beaucoup de plaisir. Bonjour à toutes les trois. Je vous les présente par leur nom. J'espère que je ne prononcerai pas mal des noms qui viennent d'horizons lointains. Par exemple, nous avons avec nous Betty Chambi Mfege. C'est juste comme ça, Betty?
Vous avez bien prononcé mon nom.
Bonjour. Et Betty, qui est camerounaise d'origine et qui est masseuse et thérapeute, elle nous expliquera plus particulièrement en quoi elle est surtout spécialiste du massage des bébés, par exemple. Nous avons aussi en notre compagnie Méfieu Meido, c'est-à-dire la reine Meido, ou pour nous tout simplement Hermine Meido. Bonjour Hermine.
Bonjour.
Vous nous expliquerez pourquoi on dit reine, peut-être un peu plus tard, quand vous vous présenterez. D'accord. Et puis, qui est l'instigatrice de notre rencontre d'aujourd'hui, et je l'en remercie vivement, Marie-Noëlle Anderson. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour. Donc, a réuni pour nous les femmes qui sont ici présentes dans notre studio pour parler médecine traditionnelle en Afrique. Alors, pourquoi cette rencontre? Parce qu'il y a une raison particulière. Il y a un symposium qui a commencé hier à Genève et qui durera jusqu'au 3 mai prochain pour évoquer sous le titre « Médecine et art en Afrique traditionnelle ». Je ne sais pas qu'est-ce qui est traditionnel en l'occurrence, si c'est l'Afrique, si c'est la médecine ou l'art, nous allons voir. Et c'est dans le cadre de ce symposium que nous allons évoquer nous aussi la médecine traditionnelle et la pratique de chacune des femmes qui sont ici réunies, puisque toutes les trois, donc on l'a dit, Betty est masseuse, particulièrement masseuse pour les bébés, Hermine est psychologue, qui vient du Cameroun aussi, et Marie-Noëlle est thérapeute. Marie-Noëlle a un pied, on le verra, en Suisse, mais aussi en Afrique du Sud, c'est ça Marie-Noëlle?
C'est ça, oui.
Alors, toutes les trois, elles vont se présenter parce que je crois qu'elles ont une histoire, toutes les trois, très particulière qui consiste à avoir un pied de leur vie par leur origine, leur vécu d'enfance, pour deux d'entre elles en tout cas, en Afrique, et puis un pied en Occident. Et ça a une importance, un poids particulier dans leur engagement aujourd'hui, dans leur travail. Marie-Noëlle aussi, je crois que c'est l'enfance, le retour, l'aller-retour, enfin avec l'Afrique du Sud, c'est de nombreux allers-retours.
La terre africaine est bien là. Bon, je l'ai redécouverte un peu tard, mais enfin je l'ai redécouverte, c'est ce qui est important.
Voilà. Et aussi un pied en Suisse, puisque donc toutes les trois, aujourd'hui, vous vivez en Suisse, c'est ça?
Oui.
Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune avec cette double appartenance culturelle, géographique et qui influence beaucoup votre travail par rapport à la médecine aujourd'hui? Hermine, vous commencez?
Oui. Si je suis là, c'est déjà parce que je suis membre du comité d'organisation de ce symposium sur la médecine africaine dans le cadre de l'association panafricaine pour l'art. Mais je suis aussi intervenante. Hier soir, j'ai donné une conférence avec la doctoresse James parce que l'invité principal n'était pas là. Je me force de vous expliquer que j'ai fait des recherches depuis 1988 sur la médecine africaine et je suis auteur d'un essai dans le domaine. C'est tout.
Un tout petit peu plus de précision, Hermine, parce que vous avez écrit un livre qui a pour titre, un très joli titre, « Entre l'angoisse et l'arbre de la paix ». Et en même temps, vous présentez, je crois, dans ce symposium aussi un film qui a pour titre « Une folie qui fait du bien ». Visiblement, votre travail est axé aussi sur quelque chose en particulier. C'est le travail autour de la folie ou de la maladie mentale.
Oui, Donc, la folie ou la maladie mentale, bon, à chacun de choisir le...
Ou les problèmes de comportement, je ne sais pas comment il faut dire.
À chacun de choisir la définition qui lui convient le plus. Parce que c'est quand même un concept, dit la folie, c'est quand même un concept qui englobe tellement de choses et qui pousse les normaux, entre guillemets, à avoir des réactions tellement différentes selon les symptômes du sujet. Et chez moi, j'observe des gens qui commencent par des crises de folie, ce qu'on peut appeler folie sans autre, et qui deviennent des guérisseurs. Autrement dit, la maladie dans ce cas est conçue comme un voyage initiatique, et je l'appelle dans le livre une phase de transition.
Et comment alors justement pouvez-vous nous parler de votre origine africaine et de votre présence aujourd'hui en Suisse et ce lien qu'il y a entre le poids de ce que vous avez vécu et la tradition que vous avez apprise en Afrique et puisque vous vivez aujourd'hui, donc Afrique, le Cameroun?
Je dirais, je rendrai grâce à la Suisse et même à l'Europe en général, parce que c'est mon voyage en Suisse, mon séjour, ma résidence. Le fait que j'habite ailleurs m'a obligé à chercher en moi, à rechercher mes racines. Il arrive que j'ai eu la chance, ou bien l'appel si on veut, que ça tombe dans mon domaine. C'est-à-dire que cette soif de me retrouver entre dans le cadre de mes recherches intellectuelles, dont j'ai eu un diplôme sur mes propres recherches à l'Université de Genève, c'est ce qui a donné lieu à ce livre. Et je fais maintenant un doctorat. Avec le livre, j'avais 15 protocoles. Aujourd'hui, j'en ai 68 observations au Cameroun. Tout est fait au Cameroun sur des guérisseurs de plusieurs types, mais principalement sur des gens qui ont connu cette expérience de folie. Et c'est d'autant plus important pour moi de le dire que ceux qui passent par l'expérience se portent désormais garants de ceux qui vont subir la même chose. Donc, ce sont les anciens fous qui supervisent la démarche des fous présents qui doivent devenir des guérisseurs à leur tour. Et ils sont tous des spécialistes. Il y a des psychiatres parmi eux, il y a des gynécologues. Ils sont tous des spécialistes, chacun dans son domaine.
Vous êtes venu en Europe, en Suisse, quand, Hermine, si je peux vous demander, vous avez d'abord commencé à travailler en Afrique?
Non, je suis partie de l'Afrique assez jeune et assez inconsciente. Dans ce sens que... D'aucuns disent que ça arrive beaucoup aux gens qui sont un peu légèrement intelligents. C'est possible. Je crois que ça devrait aussi être aussi mon cas parce qu'on est attiré par plusieurs choses à la fois et pour finir, on risque de tout perdre s'il n'y a pas une main qui est tendue pour nous soutenir, pour nous maintenir. Et cette main-là était celle de mon oncle qui est prêtre au Cameroun. Il m'a envoyé en Italie, c'était pour que je sois domestique dans une famille, ça s'est bien passé, sauf que j'ai toujours de la peine à me soumettre. Et je suis arrivée en Suisse où les sœurs de Saint-Vincent de Paul de Fribourg se sont portées garants pour mes études. C'est là que j'ai passé un diplôme d'enseignement de français moderne à l'Université de Fribourg. C'était en 76. Je suis venue me marier à Genève à la fin 76. Et c'est en 82 que j'ai repris les études à l'Université de Genève.
Et c'est seulement à partir de ces études-là que vous avez décidé de retourner en Afrique. Jusque-là, vous n'étiez pas...
Même pas à partir de ces études-là. C'est après la licence. Vous voyez, je me suis rendu compte que j'avais un diplôme dans ma poche qui risquait de me servir à rien du tout. Tout le monde sait que Piaget n'est pas facile à lire. Mais je dirais pour un Africain, c'est encore plus compliqué.
À cause des différences de culture, de point de vue, de vision du monde, etc.
C'est que l'Africain doit sentir. Si l'Africain ne sent pas, ça risque de sonner faux pour lui. Et j'ai beau lire ces messieurs, même Freud qui raconte tellement de fois, je retiens de belles phrases, et même que certaines de ces phrases sont inspirantes, mais ça ne me touche pas pour autant. Il a fallu que je cherche, que je me cherche, que je me trouve. Et la seule façon de me trouver, c'était faire ce que j'ai fait.
Donc de rentrer.
De rentrer, oui. Déjà en moi et chez moi. Mmh.
Vous aviez l'impression que tout au long de vos études, vous sentiez ce poids ou cette influence de votre naissance au Cameroun ?
Au début, c'était, il fallait déjà au début que je me retrouve sur le banc. Après 7 ans, mère de 2 enfants, travaillant la nuit à l'armée du salut. Je crois que là, je n'avais pas le... Je ne pouvais pas me permettre encore le souci de me poser une telle question. Il a fallu que je dépasse vraiment, que je me situe par rapport aux études, par rapport au contexte. Après coup, je me suis rendu compte que je me suis battue peut-être pour avoir un élément de base. Mais l'essentiel par rapport à moi restait à faire. Je me rends compte aujourd'hui que ce qui était pour moi est aussi une mission, dans ce sens que on parle tellement de l'Afrique, mais qui la connaît vraiment?
Alors j'espère que notre émission d'aujourd'hui contribuera à ajouter une petite goutte dans la compréhension de ce qu'est l'Afrique. Parce que ça, c'est vrai, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui ont une sorte d'attraction aujourd'hui pour ce qu'est la médecine traditionnelle africaine, par exemple. Et puis il y a d'autres qui ont au contraire des rejets terribles, qui n'y voient que sorcellerie et épouvante. Et puis à travers ça, bien, on y gagnerait certainement les uns et les autres à essayer de mieux se comprendre. Alors, Betty, quant à vous, quelle est votre histoire entre ces deux mondes?
Mon histoire entre ces deux mondes, c'est que, toute petite, j'avais déjà quelque chose à partager avec les autres. Et je ne l'avais pas comprise. Quand j'étais chez moi, je suis née déjà jumelle. Et puis, chez nous, on dit que les jumelles, il y a toujours, ou des jumeaux, il y a toujours un qui a du magnétisme et quelque chose. Mais moi, je m'étais pas...
Un qui a du quoi? Du magnétisme?
Du magnétisme.
Ah oui?
On dit toujours ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais chez moi, on dit ça. Et puis, je ne m'étais pas rendu compte que c'est moi qui l'avais. Et donc, quand j'étais gamine, dès qu'il y avait un problème de cassure ou quelque chose, je voyais qu'on m'appelait moi pour soulager. Je ne savais pas ce que je faisais exactement, mais je continuais à soulager les gens. Et quand je suis revenue... avant de venir, j'étais toujours avec ma maman qui, à 14 ans déjà... Elle m'avait initiée pour les massages des bébés. Moi, je ne comprenais pas encore parce que j'étais gamine et je n'étais pas prête pour assumer. Et ça fait que quand elle a eu mon petit frère, au moment du sevrage, c'est moi qui devais passer la nuit avec mon petit frère, une gamine de 14 ans. Et donc, je devais dormir avec, m'en occuper, le masser pour le soulager et tout ça. Et puis donc, j'en passe, je suis arrivée en Europe, d'abord à Paris, j'avais donc ce don à moi. Et donc, je continuais à soulager les amis, les copines et tout ça. Donc, après, ça fait 9 ans, je suis arrivée à Genève. Donc, j'avais un ami suisse, il a eu un marteau sur le pied. Donc, il avait très, très mal, ça gonflait et tout. Et puis, il souffrait à côté de moi. Je lui ai proposé mon aide, tout naturellement. Et lui, il s'est dit, non, tu vas me faire mal. Il avait peur. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, je peux te soulager. Et comment tu vas faire et tout? Moi, je dis, écoute, laisse-moi faire. Donc, je l'ai massé. Il criait, il poussait des cris. Et puis, quand j'avais fini de le masser, il a pu dormir. Et le lendemain, il a pu marcher sans problème. Et c'est là qu'il a dit, non, non, non. Ça, je crois que tu as quelque chose, effectivement. Il faut que tu apprennes vraiment les techniques. Là, je ne connaissais pas les techniques d'ici. Et puis, je ne pouvais pas tellement en parler parce que ça venait directement de moi. Et je n'avais aucune technique ni je n'avais aucune connaissance théorique à ce niveau. Et puis, il m'a encouragée de faire les cours. Donc, j'ai été dans une école à Genève, une école d'esthétique, où j'ai dû faire 6 mois de cours pour apprendre à masser. J'ai appris l'anatomie, la physiologie, juste pour vraiment être dans le coup, parce qu'on m'avait dit qu'ici, si c'est que la pratique, ça ne passera jamais. Il faut avoir de bases théoriques pour faire passer le message et tout ça. Donc, après, j'ai eu le diplôme. Mais sur le moment, quand on était à l'école, on ne nous apprenait pas que le monde des massages était presque tabou. Moi, je ne savais même pas que ça avait une connotation bizarre, un peu sexuelle et tout. Ça fait que quand je sors de mon école, on me dit que les massages à Genève, dès que tu es masseuse, on te prend pour une fille... un peu facile et tout, qui fait des choses bizarres que j'ose pas dire. Mais bon, ça m'a complètement déçue. C'était en 90. Alors, pendant 5 ans, je n'ai pas osé pratiquer mon métier ni monter ce que je savais faire parce que moi, j'avais peur d'être jugée et tout. Et puis, je n'étais pas assez forte moi-même pour assumer ce métier et le vivre vraiment comme je le voulais. Donc, ça fait que pendant 5 ans, j'ai oublié, j'ai mis mon diplôme dans un tiroir, j'ai fait la coiffure et j'essayais de faire autre chose. Mais ce besoin d'aider les autres était toujours là. Et voilà, je suis allée chez moi pendant les vacances 2 années. Après, j'ai trouvé que mon petit frère avait une déchirure musculaire. Donc, je l'ai massé en une seule fois. Il était sur pied. Alors, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, mais mon Dieu, pourquoi j'arrive pas à faire ça vraiment, à le vivre? Même les enfants, dès que j'avais les enfants entre mes mains, je les massais, ils étaient bien après, je les soulageais. Et à chaque fois, cette voix qui me disait, je dois mettre ce don en pratique et le faire du bien aux autres. Mais je n'arrivais pas parce que j'étais en Europe, j'étais entre les deux. Bon, je reviens ici, je réfléchissais. Et puis là où j'ai vraiment pris la décision que quoi qu'on en dise, je dois faire ce que je dois faire. C'était comme une mission, je devais le vivre et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui devait le faire à ma place. Et donc, j'ai décidé l'année passée à le faire. Donc, j'ai contacté l'école des parents, j'ai écrit, les gens me disaient, il faut faire des recherches et tout ça. Donc, j'ai dû faire des recherches pour faire un projet à l'école des parents, pour le faire vraiment avec les enfants. Donc, j'ai mis 1 année. Mais pendant ce temps, j'ai commencé donc à masser les adultes et tout ça, mais... Ça, les déceptions...
Vous ne faisiez pas confiance.
Mon Dieu, c'est-à-dire que j'ai vécu des moments de déroutage complètement, quoi. Alors bon, bref, j'ai arrêté. Je m'étais dit, moi, je dois m'occuper des enfants. C'était mon idée qui venait de moi. Alors vraiment, il fallait mettre ça en pratique. Et quand j'ai réussi, donc, heureusement que l'école des parents, ils ont eu confiance en moi, que bon... Parce que même des recherches que je faisais en dehors, j'arrivais pas à trouver des mamans. Et puis, il y a des amis et des gens qui disaient, « Ouh, personne ne te donnera des bébés pour masser et tout. » Mais moi, ça ne me décourageait pas.
Quand les gens ne vous faisaient pas confiance, ils continuaient à ne pas vous faire confiance par rapport à cette vision soi-disant érotico-sexuelle ou je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Ou bien est-ce que c'est parce que quelque part, ils se méfiaient ils mettaient une autre étiquette qui était celle de guérisseuse bizarroïde?
Je crois plutôt, hein, ça n'avait rien à voir avec l'érotisme ou autre. Parce que face à un bébé, moi, je ne vois pas comment on pourrait avoir peur de moi. Mais...
Parce que, y compris face au bébé, on ne vous faisait pas confiance non plus pour les bébés.
C'est surtout pour les bébés, parce que les adultes, moi, j'ai compris que c'était un monde où je ne pouvais pas faire confiance non plus aux gens, parce que j'ai eu des patients où j'ai traité pendant un certain moment, mais arrivés vers la fin, ils tournaient toujours vers le sexe. Alors ça m'a complètement déroutée. Je me suis sentie même blessée au fond de moi, en me disant, mais mon Dieu, si je dois faire du bien, moi croyant faire du bien, et les gens attendent toujours quelque chose que je ne peux pas donner, ça c'était plus fort que moi. Alors vraiment, tous les jours j'étais mal. Je me dis, si c'est une mission, à vouloir essayer de donner du bien, et puis... Alors bon, voilà, j'ai donc vraiment décidé, par mon mariage aussi, d'arrêter complètement avec les adultes, parce que je n'en retirais pas de satisfaction. Même si je faisais du bien, parce que mon massage n'est pas que physique, il est très profond, parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est un art que j'ai reçu de l'Afrique, ça vient de moi, c'est mes mains qui soignent. Alors j'ai donc, et il y avait des patients, je n'osais pas expliquer profondément ce que je leur donnais, parce que je me dis, est-ce qu'ils vont croire que je suis une sorcière? Et bon, je me dis, non, ce n'est pas la peine d'expliquer ni de faire de diagnostic. Moi, j'essaie de faire du bien et puis ça s'arrêtait là. Mais c'est au niveau des bébés, parce qu'au début, beaucoup de personnes m'ont découragée, personne n'osera te donner le bébé et tout. Mais j'ai fait confiance à mon étoile. Je me suis dit, si je suis arrivée jusque-là, c'est que maintenant, c'est le moment, c'est l'appel que je viens de recevoir, qu'un enfant a besoin de mes services, parce que le massage des bébés, je crois qu'on le pratique dans beaucoup de pays. Et puis en Europe maintenant, ça se fait, c'est courant. C'est... Un enfant a besoin de ça pour s'épanouir dans son environnement. Et puis, donc, ce que je fais à l'école des parents, j'anime des groupes parents-bébés. Comme ça, j'apprends aux mamans comment masser leur bébé. Ça, je trouve que c'est important pour la vie d'un enfant qui arrive, le choc déjà de la naissance et tout. Si à partir de ce moment-là, de toute façon, on commence à le toucher, déjà le contact est déjà là, la maman continue à la maison. Et même le père, les deux, pour ça, je crois que c'est important.
Alors Betty, nous reviendrons bien sûr à l'avantage, l'intérêt de ce massage pour les bébés.
Oui.
Et encore une chose que j'aurais voulu vous demander toujours sur comment vous êtes arrivée à faire ce que vous faites aujourd'hui. Mm-hmm. Au moment où vous êtes allée dans une école ici à Genève, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que cette vision très théorique occidentale, ça contrecarrait pas, ça allait pas contre ce que vous aviez comme don ou ce que vous aviez appris chez vous? C'était un complément?
C'était un complément pour moi parce que moi, ce que j'avais chez moi, j'avais pas la technique, je le faisais comme je le ressentais. Mais ici, pour convaincre les gens, il faut non seulement avoir un diplôme, parce que, et puis la technique, ça ne me faisait pas de mal à moi, parce que là, je sais où je vais, je sais comment je dois masser pour ne pas donner une autre douleur au patient, parce que le massage, si on le fait n'importe comment, on se fait du mal à soi-même et à l'autre. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on fait.
Merci Betty pour ces bonnes explications qui à la fois nous donnent aussi déjà un aperçu de ce que la difficulté d'imaginer cette rencontre entre la médecine traditionnelle, par exemple africaine, qui nous intéresse aujourd'hui, et puis notre façon de vivre et notre façon de nous soigner ici en Occident. Ouais. Marie-Noëlle Andersen, alors, vous, Afrique du Sud, le pied en Afrique et la Suisse. Comment les deux choses se mélangent?
Oui, alors on pourrait peut-être dire effectivement un pied en Suisse parce que j'habite la Suisse et je travaille en Suisse, mais peut-être que ce sera plus logique, il y aura un fil conducteur si on voit mon pied européen en Écosse, parce que c'est là de l'Écosse que viennent mes ancêtres européens, du côté de mon père, disons, et donc celtique. Et il faut peut-être expliquer que j'ai fait un parcours inverse. J'ai retrouvé l'Afrique, disons, après une longue errance, si on veut. Et, au niveau de la médecine, je suis partie d'un état de maladie, donc d'un problème physique. Et un petit peu dans le sens de ce que disait Hermine tout à l'heure, on peut guérir la folie après avoir traversé la folie. Donc c'est tout à fait une constante dans toutes les médecines chamaniques du monde, parce que je pense que la vision du monde africaine est chamanique à la base. Et c'est là aussi qu'on va retrouver la vision du monde de nos ancêtres, les Celtes. Donc on a ce dénominateur commun qui est important, je crois.
Marie-Noëlle, vous pouvez nous préciser ce que vous appelez chamanique?
Oui.
Pour clarifier les propos quand même.
D'abord, le chamanisme, pour moi, c'est un état d'être. Donc, ce n'est pas une question d'avoir, c'est vraiment une question d'être et de pratiquer avec cohérence un souci d'harmonie avant tout, donc d'harmonie avec soi-même, avec son entourage, avec la nature aussi, et avec l'invisible, avec le créateur. Ensuite, on arrive dans des histoires d'étiquettes, parce que qu'on parle de Dieu, d'énergie de vie, bref, ça dépend ensuite des croyances de chacun. Et je crois que l'important, justement, c'est cette pratique de la coexistence du visible et de l'invisible, qu'on retrouve aussi beaucoup en Afrique, évidemment, qui est liée à cette vision du monde liée au cercle et non pas à la ligne. En Occident, on est, on progresse, on se développe, etc. On traverse la vie et on meurt. Et à la fin, on ne sait pas, on va peut-être au paradis, peut-être en enfer, peut-être ailleurs, j'en sais rien. Ça dépend des uns des autres. En Afrique et dans la tradition chamanique en général, on a une vision du monde en cercle, c'est-à-dire que d'une part, il y a de la place pour tout le monde dans le cercle. Chacun a sa fonction aussi, et ce qui permet une organisation de la société qui est beaucoup plus plus fluide et plus coulante. On ne va pas avoir besoin d'un état policier pour assurer un certain bien-être, disons. Donc, avec cette vision du monde en cercle, on a aussi une interaction constante entre le visible et l'invisible, parce que vous pouvez cheminer dans le pourtour de votre cercle, si vous voulez. Vous naissez à un moment donné, et lorsque vous avez traversé tous vos rites de passage, lorsque vous avez vécu, que vous devenez une personne, un ancien, comme on dit dans la tradition nord-américaine, disons chez les Amérindiens, et que vous avez la sagesse, bon, pour finir, vous mourrez évidemment dans votre forme physique et vous devenez un ancêtre. Et ensuite, vous faites la seconde partie du cercle, si on veut, où vous avez d'autres fonctions, parce qu'on a toujours cette interaction où les ancêtres sont là pour nous guider, pour nous protéger, enfin, ils ont toutes sortes de fonctions. Et il y a toujours une interaction entre le monde des vivants et le monde des ancêtres ou des esprits. Donc aussi avec les vivants, il faut qu'ils obéissent à certaines règles, il faut qu'ils fassent des sacrifices, des rituels pour que les ancêtres veulent bien les guider, justement. C'est un petit peu comme l'ange gardien, si on ne l'appelle pas, si on ne s'en occupe pas. Je ne sais pas, il fait ses valises, il va en vacances ailleurs, quoi.
Mais Marinelle, alors cette religion, cette version chamanique de la médecine ou de la vie est liée, on la retrouve pas seulement en Afrique, vous la reliez au début, donc, pour nous expliquer votre parcours aux Celtes. C'est alors vous vous référez à ça en premier, puis ensuite ça vous emmène où vous êtes né, où vous avez vécu en Afrique
du Sud. Oui, c'est-à-dire que, on parlait des composantes Occident, enfin Europe-Afrique, donc c'est simplement pour expliquer déjà ce dénominateur commun, mais qui va bien au-delà, puisque pour moi c'est une vision du monde que partagent toutes les sociétés, les cultures dites primitives, donc les Amérindiens en Polynésie, les Aborigènes, etc., qui forment quand même, qui constituent les deux tiers de notre planète. Et c'est aussi là que je trouve que c'est assez curieux d'observer que, quand on sait qu'une grande majorité des habitants de cette planète a cette vision du monde, est pratique, parce que, bon, par exemple, rien qu'en Afrique du Sud, on sait que 80% des gens consultent aujourd'hui encore et toujours des guérisseurs, donc de la médecine traditionnelle. Et ça m'étonne toujours de voir avec quelle arrogance, quand même, la médecine dite occidentale prétend tout savoir. Alors qu'elle a bien entendu sa place, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde aussi dans ce fameux cercle, et que la chose extraordinaire, c'est de collaborer. Et je pense que ce sont deux approches complémentaires qui ont absolument leur raison d'être. Dans certains cas, l'une sera meilleure et dans d'autres, ce sera l'autre.
Alors, est-ce que vous pouvez, excusez-moi de vous avoir fait ce détour qui était en fait, je croyais qu'on pourrait on pouvait le définir brièvement, mais ça a nécessité plus d'explications que cela. Nous y reviendrons d'ailleurs. Mais alors, Marie-Noëlle, est-ce que vous pouvez reprendre votre parcours à vous ?
Oui, ce que je disais, justement, tout à fait. Au niveau de cette approche, en général, on devient guérisseur, Nyanga Sangoma, comme on les appelle chez nous, en Afrique du Sud, souvent parce qu'on a traversé la maladie. Donc, on peut justement connaître la folie, on peut connaître des maladies très pénibles, il y a différents cas de figure. Et pour mon cas, c'était pour un problème physique que j'ai commencé à m'intéresser à une autre approche de la médecine, parce que je n'étais pas du tout convaincue par ce qu'on me présentait. Théoriquement, j'aurais dû aller me faire opérer, me faire enlever la moitié de mes intérieurs. Je n'avais pas du tout envie. Donc, je me suis intéressée à la médecine, si on peut dire, énergétique. Et j'ai appris ce qu'on appelle la technique de résonance énergétique, où on travaille sur un plan strictement vibratoire. Et je crois que c'est là que ça se rejoint aussi, parce que dans la médecine africaine, la puissance guérissante, je dirais, que ce soit des plantes ou enfin des remèdes en général, est très importante. C'est pas seulement une question d'éléments que la science peut ensuite trouver, analyser, d'enzymes ou je sais pas quoi, qui font que une telle plante est bonne dans un certain cas, mais aussi tout un aspect de puissance symbolique, d'identité, on pourrait dire invisible.
Mais pourquoi vous avez-vous eu envie d'aller dans cette direction? Parce que, je veux dire, même si vous êtes lié à l'Écosse, je crois pas que tous les Écossais se lancent forcément dans cette façon de contrôler leur santé, encore moins en Suisse. Donc, est-ce que c'est votre lien avec l'Afrique ou est-ce que c'est une démarche très personnelle d'intérêt?
Écoute, je pense qu'il y a un petit peu de tout, parce que ce serait facile de pouvoir limiter comme ça les choses à simplement une voie. Mais je crois qu'il y a un peu de tout. D'abord, il y avait évidemment un rejet justement d'un certain type d'approche médicale. Donc, on va chercher autre chose. Et je pense qu'en nous, justement, on a quand même nos cellules mémoire qui sont porteuses de tout un héritage. Alors, chez moi, il y avait cet héritage celtique et il y avait l'héritage de la terre africaine sur laquelle je suis née. Alors, ces deux choses sont venues se conjuguer. Et j'ai d'abord donc appris cette technique que j'ai pratiquée. Et en fait, je ressentais très fort toute cette complicité, je dirais, avec l'approche africaine et chamanique en général. Mais je n'osais pas, j'avais pas le culot, disons, de la pratiquer ouvertement. Et c'est après, en allant en Afrique, à un moment donné, j'ai été invitée justement pour l'anniversaire d'une clinique qui pratique sous le même toit médecine occidentale et médecine traditionnelle, que les choses sont devenues plus concrètes.
Alors, nous allons revenir sur la pratique de chacune de nos trois invitées. Nous allons peut-être aussi clarifier certaines notions plus générales. Mais tout de suite, Marie-Noëlle, qui nous a choisi une bonne partie du programme musical d'aujourd'hui, nous propose une musique qui sera un petit peu une musique qui va nous mettre dans de bonnes conditions pour notre émission, elle aussi.
Oui, alors c'est une musique qui vient du Zimbabwe, justement de la région où j'aime beaucoup aller parce que je travaille avec les guérisseurs de cette région-là, de Bulawayo notamment. Et cette musique est faite pour chasser les mauvais esprits et les mauvaises énergies. Et c'est une chose qu'on pratique toujours à chacune de nos réunions. On commence aussi par mettre un peu d'harmonie dans l'entourage, dans le lieu.